Vladi Stefanovic. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, grand maître de Tai Chi. Avant de présenter et de décrire un peu les repères biographiques de son existence, dirait Jacques Guinet, ce serait bon de situer le cadre dans lequel s'est effectuée cette entrevue. Alors, je rappelle que dans le cas de Jacques Guinet, nous étions à quelques heures de quitter la France. On était à la fin de nos vacances. Et dans le cas de Vladi Stefanovic, il était à quelques heures de débuter ses vacances. Et donc, dire tout l'espace différent dans lequel se sont effectuées ces deux entrevues. Dans le cas de Stefanovic, c'était un mercredi soir après une émission comme celle-ci. Donc, un peu fatigué, un peu fermé, dirais-je. Et j'ai réécouté cette entrevue il y a deux jours à mon retour de la Naudière. Et je me suis rendu compte que ce que me transmettait Stefanovic était de niveau à tout le moins similaire à ce que disait Jacques Guinet. Dans d'autres mots, passé par le prisme de sa personnalité, de son cocon peut-être existentiel, mais il y a quand même une parenté dans l'esprit, des propos qui ont été divulgués à votre serviteur. Donc, Vladi Stefanovic est né en Yougoslavie en 1925. Il vit en dehors de son pays depuis une quarantaine d'années, donc je le devine depuis la fin de la guerre. Il y a un détail que j'ignorais au moment de cette entrevue, c'est que Stefanovic a été un résistant, comme on dit en France. Il a combattu l'occupation allemande d'une façon très, très concrète, par les armes, la résistance, du terrorisme à l'époque. Et j'ai vu dans l'un de ses ouvrages, tout récemment, dans le livre « Médecin devenu guérisseur », la description de certains de ces moments très forts au cours de la Seconde Guerre mondiale. Je vous en cite un exemple. Et qui rappelle justement ces chocs d'existence vécus dans des moments, somme toute, pas du tout banals. Ces chocs provoquent une sorte d'éveil intérieur, sont peut-être les débuts annonciateurs d'une voie. Déjà, Stefanovic, à ce moment, était pratiquant du Tai Chi, mais c'était facile de comprendre ça, nous qui sommes ici du Canada, nous n'avons pas vécu la guerre, nous n'avons pas vécu l'occupation. Et pour un résistant comme lui, chaque seconde était un moment d'éveil parce que chaque moment d'inattention pouvait vouloir dire l'emprisonnement, la torture, la mort. Et donc, je suis certain que ces expériences de qui-vive ont éveillé chez lui quelque chose qui transparaît maintenant dans son énergie, dans ses propos. Je vais prendre ici peut-être une petite minute encore pour raconter cette anecdote que j'ai lue il y a quelques heures. Alors, Stefanovic, une journée après avoir effectué une mission, devait rencontrer un ami résistant sur la place publique d'une ville de son pays. Et le code était le suivant, à une telle heure, à cette journée-là, il devait passer sur la place sans mot dire et en se croisant, c'était le code pour dire que la mission était effectuée. Bien sûr, si la mission avait raté, ça voulait dire pour le reste du réseau, il fallait se sauver, se cacher, sans ça, ils allaient être faits prisonniers, donc torturés, déportés, etc. Et là, il s'est passé l'irréparable, Stefanovic. La mission a bien fonctionné, mais Stefanovic était en retard, complètement en retard. Il s'est quand même rendu sur la place, et au bout de la place, il a vu son ami, et là, instantanément, sans même avoir le temps de penser, puisque c'est une réaction viscérale qui vient du hara, diraient les Japonais, du tamtien, disent les Chinois taichistes, il a couru. Il s'est rendu compte, autrement dit, après coup, que son ami avait été piégé, et que si lui se rendait jusqu'au bout de la place, il allait être fait prisonnier. Il en avait une pré-réaction viscérale. Il a donc pu sortir de ce guet-apens et avoir la vie sauve. Plusieurs exemples comme ça sont racontés dans Médecin devenu guérisseur. Et donc, cet éveil du chi, de cette énergie viscérale qui nous fait parent de tous les aspects de la vie, peut s'éveiller par une pratique comme le tai chi. Et il y a quelques semaines, donc, j'ai demandé à Vladi Stefanovic de nous décrire, bien qu'il sera peut-être, il a été le premier à le dire, il n'y a que l'expérience qui compte. Et dans sa méthode d'enseignement, c'est vraiment l'expérience vécue par l'étudiant qui compte. Le reste n'est que littérature, mais le reste n'est peut-être aussi que radio. Et j'ai quand même demandé à Vladi Stefanovic de nous dire en quoi consistait l'essence du Tai Chi.
L'essence, c'est la recherche du chi, l'intégration consciente, voulue, donc, dans le monde de l'énergie vitale. En Occident, on parle d'énergie vitale, le terme n'est pas nouveau, jamais la science n'a exploré ce domaine. jamais, jusqu'à il y a une date très récente où on a commencé à faire une recherche scientifique, mais passons. Par contre, en Orient, la recherche dans le domaine de l'énergie vitale, du chi, est quelque chose qui est ancien de plusieurs millénaires déjà. Et donc, l'essence même du travail est la prise de conscience, l'intégration dans ce monde de l'énergie vitale. Ça se fait d'abord par une prise de conscience. D'abord, ça doit être quelque chose qu'on accepte de rechercher, parce que c'est évident que les phénomènes de la vie se passent autrement que les phénomènes purement mécaniques, chimiques, physiques, etc. Il y a autre chose qui est mis en œuvre et qui n'est pas reproductible en laboratoire, comme le sont tous les phénomènes de la physique ou de la chimie. Donc c'est quelque chose d'autre. Il faut accepter d'abord d'une façon purement mentale. Ensuite, il faut s'ouvrir à cette perception. Tout le monde peut percevoir le chi. Tout le monde peut sentir cette énergie qui, dans notre façon de vivre occidentale et civilisée, ne signifie rien, ne sert à rien, ne peut être utile à quoi que ce soit. Quoi que ce soit, orienté dans la recherche qui est la recherche de notre civilisation, c'est-à-dire le confort, le gain, la productivité, etc. Par contre, si on oriente sa recherche dans un autre sens, qui est le sens de la vie, du bien-être, de l'intégration dans la nature, là, le chi est un fil conducteur irremplaçable. Et donc, cette ouverture vers la perception du monde du chi est la deuxième phase qu'il faut aborder. Ensuite, c'est l'intériorisation. Ensuite, c'est donc l'exploration de son propre corps, mais non pas en tant qu'objet d'exploration physique, mais une perception intérieure de sa source d'énergie qui se trouve dans le ventre. Tout ça, ce sont des choses très surprenantes pour les Occidentaux, mais ce sont des faits d'expérience, des faits que chacun peut vérifier sur soi-même. Il y a une source d'énergie, ou disons un centre de focalisation de l'énergie dans le corps, qui se trouve dans le ventre, qui s'appelle le Tan Tien en chinois, et qui est le point de départ, alors, de toute l'exploration du monde du chi. Ça part de là, et ça ne s'achève pas. Il n'y a pas de limite.
Question de faire des ponts, et également de rentrer tranquillement dans l'espace, du Tan Tien.
Le Tan Tien.
Est-ce que ça correspond également au Hara, écrit par les Japonais?
C'est ça. Le mot Hara est d'origine sanscrite, c'est du sanskrit, les Japonais l'utilisent pour désigner exactement le Tan Tien chinois. On entend au Japon un autre terme, le Tanden, ou quelque chose comme ça, je ne parle pas le japonais, mais enfin l'idée du centre du corps, l'idée du centre énergétique est commune donc au Japon, à l'Inde et à la Chine. Mais encore une fois, ce n'est pas une question ce n'est pas la conclusion d'un raisonnement, c'est un fait d'expérience. C'est quelque chose que tout le monde peut trouver dans son corps plus ou moins facilement. Il y a des élèves, il y a des pratiquants qui trouvent ça immédiatement, d'autres qui mettent plusieurs années avant de découvrir la chose. Tout le monde la découvre un jour, et quand on a cette découverte-là, alors le chemin est ouvert et tout est possible.
La première voie d'accès, on devine, du moins je présume, si on pense à une autre image, à une autre époque, une autre culture, on parlait du creuset des alchimistes, le ventre et également le creuset des alchimistes, le lieu de transmutation des énergies, et la voie d'accès, c'est le souffle.
Je ne connais pas l'alchimie, mais je crois que ce que vous citez là, ce que vous dites là, correspond en quelque sorte à justement le travail que nous faisons. Le creuset, si on doit ce terme-là, est plutôt la posture, l'attitude juste, l'attitude corporelle juste. Et quand on voit les gens dans la rue, ou quand on les voit faire la file devant le cinéma, par exemple, on se rend compte à quel point les gens n'ont pas l'attitude juste. Quand on les voit faire des mouvements, quand on les voit agir dans la vie quotidienne, on se rend compte combien ils sont hors de leur corps, combien leur corps leur est étranger. La posture juste, c'est, signifie réintégrer son corps, retrouver une attitude où on est présent dans son corps, présent consciemment dans son corps. Ça, ce serait le creuset dont vous parlez, et donc le souffle, évidemment, il n'y a pas besoin de le définir, mais ça va plus loin que la simple respiration, ça va plus loin que la ventilation des poumons, l'oxygénation, etc. Ça va beaucoup plus loin. Il y a autre chose qui est mis en œuvre. Mis en œuvre signifie qu'on utilise les muscles de la respiration, qu'on utilise la technique de la respiration, mais pour mobiliser autre chose que l'air, autre chose que l'oxygène. Ça, ce serait le souffle et la transmutation, je ne sais pas comment il faut appeler ça, et quelque chose à nouveau d'observable. On peut se rendre compte que par ce travail-là, par les techniques donc, du souffle, de la posture juste, et donc du chi, on transforme une énergie brute qui est produite dans le corps humain par l'alimentation, par l'oxygénation, l'oxydation des aliments, etc., qui se transforme dans une autre énergie, l'énergie de la vie, l'énergie vitale, le chi. Ça aussi, ce n'est pas seulement la conclusion d'un raisonnement, c'est un fait observable. Quiconque s'adonne au travail du chi peut, dans son propre corps, observer cette transformation.
Qu'est-ce qui empêche globalement un être humain, on va parler d'un occidental, un occidental type, qu'est-ce qui l'empêche, qu'est-ce qui le déconnecte de cette sensation de la vie finalement, cette sensation de l'énergie? Bon, je peux déjà entrevoir certains volets à cette réponse. On pense entre autres aux ondes de forme, on pense aux façons qu'on construit des immeubles, où justement il n'y a pas de respiration, bon c'est un volet. Mais les postures que vous avez évoquées sont également la résultante d'une attitude mentale souvent. Alors, où commencer le travail en tai chi? Je devine que ça se fait d'une façon physique, mais c'est également une pratique holistique qui doit se faire à tous les niveaux.
Ça commence très tôt. Lorsque vous observez les enfants, 2, 3, 4 ans, 5 ans, ils sont parfaitement droits. On a l'impression que leur tête sort littéralement du corps comme une prolongation de la colonne vertébrale n'est pas pliée dans la zone des cervicales, elle est droite, la tête sort tout droite du corps. Quand vous les voyez quelques années après, 12, 13, 14 ans, ils ont déjà la tête en avant. Quand vous voyez la grande majorité des adultes, ils ont tous la tête en avant. C'est une question d'éducation. On met les enfants à l'école, on les oblige à avancer la tête pour regarder, pour écouter, pour dessiner, pour écrire, etc. Toute notre attitude, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à la mort, c'est de chercher avec la tête, de chercher, de penser, de comprendre, d'écouter, toujours avec la tête. Et automatiquement, on avance la tête, on lève les épaules, on prend une attitude qu'on ne rectifie pas après. Cette attitude peut être utile pour regarder le tableau noir, pour mieux voir lorsque l'institutrice écrit, etc. Elle devient néfaste lorsqu'elle ne sert plus, mais on la conserve et ça continue. Tous nos sièges, par ailleurs, sont faits de façon à nous obliger à avancer la tête. Moi-même, je suis en train d'avancer ma tête, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas me mettre comme ça, ce n'est pas possible. Donc, tout est fait pour favoriser cette attitude d'écoute intellectuelle, cette attitude de mise en œuvre des facultés intellectuelles de l'individu. Et rien pour lui faire sentir son propre corps. Au contraire, les sièges, mais je suis en train de m'étendre sur des détails, mais tout ce qui est fait pour le confort de l'individu est fait pour favoriser le travail mental, le travail intellectuel, et rien pour favoriser le travail physique. C'est donc une attitude corporelle d'abord qui prépare le travail qui va suivre. Ensuite, il y a le conditionnement par les livres, par les études, par le cinéma, par la télévision, par tout ce que vous voudrez. C'est toujours faire appel à l'intellect, à la compréhension intellectuelle et jamais à la perception. Quand je parle de la perception, c'est quelque chose de plus qu'entendre et de voir. Percevoir, c'est sentir encore par des moyens qui sont complètement ignorés par notre civilisation. Sentir par tout le corps, sentir par le ventre, sentir dans le dos, sentir la présence de quelqu'un. des choses qu'on ignore complètement dans notre civilisation. Or, ce sont des facultés qui, autrefois, dans la jungle préhistorique, signifiaient vivre ou mourir, signifiaient vraiment, étaient des facultés de survie. Aujourd'hui, ces facultés-là n'ont plus de raison d'être, nous ne sommes plus menacés, mais seulement, nous nous sommes littéralement coupés de la nature, nous sommes isolés, nous avons atrophié toutes ces facultés, nous les avons perdues, ou tout au moins endormies. Avec le travail de Tai Chi Chuan, avec le Qi, on arrive à retrouver ces facultés-là. Et je vous assure qu'on devient d'abord très sensible à beaucoup de phénomènes qui passent totalement inaperçus dans la vie quotidienne, et on arrive vraiment d'abord à jouir infiniment mieux lorsque nous rencontrons des phénomènes favorables à la vie dans la nature, dans la forêt, lorsqu'on boit de l'eau pure. Pour quelqu'un qui sent le chi, c'est une joie. Aujourd'hui, on boit de l'eau dans les bouteilles. Même de l'eau de source est vendue dans les bouteilles. Je ne vais pas utiliser de qualificatif, mais enfin, c'est pas bon. Donc, il y a d'abord ça, une grande joie de vivre qui est offerte à quelqu'un qui sent le chi, mais aussi une source de souffrance lorsqu'il se trouve dans des conditions qui lui sont défavorables. Je peux raconter une petite anecdote qui s'est passée justement ici. Ça s'est passé à Montréal l'année dernière. Nous avions terminé le stage qui a duré pendant 2 mois à Waterloo. Ça a été splendide, c'était formidable. Nous avons travaillé dans la nature, entouré d'arbres et tout ça. Je me suis vraiment régalé de vivre en pleine nature et de travailler avec des gens qui s'intéressaient au travail que je fais. Je suis venu à Montréal où je devais continuer à donner encore 8 jours de stage au professeur de Tai Chi Chuan de notre école, mais en ville. À cette époque-là, c'était le début septembre, la ville était polluée qu'on ne s'est pas permis. J'ai commencé à me sentir mal d'abord, puis mon air commençait à couler, j'ai commencé à avoir des douleurs dans la gorge, etc. Je me suis senti mal, je tombais malade. Il y a des amis, des élèves, qui sont thérapeutes, médecins, qui m'ont proposé des remèdes. Tout particulièrement, une dame m'a proposé un remède exceptionnel qu'elle garde pour elle, dont elle était prête à se séparer pour m'aider. J'ai répondu non. C'est pas moi qui suis malade, j'ai pas besoin de remède, c'est votre ville qui est malade. C'est elle qui a besoin de remède. Moi je m'en vais. Et je suis parti. Et je suis bel et bien parti. Dans l'avion, déjà, ça allait mieux. Dès que j'avais quitté Montréal, j'ai commencé à respirer et les écoulements par le nez, les maux de gorge, etc., c'est parti comme par enchantement.
C'est la preuve, justement, d'une personne, vous-même, avec un senti très aiguisé, qui permet donc, dans certains cas, de jouir plus grandement des sensations bénéfiques, et de l'autre côté, de ressentir la souffrance plus rapidement et plus vivement. Et si on transpose ce travail, votre recherche, à un autre niveau, vous devez être un être très souffrant par rapport à la situation de l'environnement.
Oui. J'avoue que il y a de nombreux endroits où je me sens mal, mais j'arrive quand même à surmonter la chose, à dominer la chose jusqu'à un certain point. Il y a toujours une limite qu'on ne peut pas dépasser, que personne ne peut dépasser. Je peux, bien entendu, m'adapter à tout, comme tout le monde. Je voyage en avion, parenthèse, j'ai commencé à voyager il y a quelques années seulement, j'ai 66 ans. Et j'ai commencé à voyager il y a très peu de temps. Je me suis adapté aux avions, je les supporte maintenant. Ma premier contact avec un avion était une véritable souffrance. Maintenant, je voyage comme tout le monde, ou presque. J'ai appris à me protéger, j'ai appris à me défendre, mais il y a toujours une limite, il y a toujours une limite au-delà de laquelle tout le monde souffre, et peut-être moi un peu plus que les autres, mais il ne faut pas s'imaginer que si dans une ville polluée, vous continuez à vivre, que c'est bon. Non, vous souffrez, votre corps souffre, vous n'en êtes pas peut-être conscient, vous ne le sentez pas, mais votre corps souffre, et tôt ou tard on le paye, tôt ou tard on le paye. Mais il y a des villes encore bien plus polluées que Montréal.
J'enchaîne, quand je parlais d'un autre niveau, c'est peut-être la dimension d'une souffrance psychologique par rapport à la situation globale de l'environnement. Comment trouvez-vous votre paix intérieure par rapport à ça? Est-ce que c'est l'espèce d'espoir du désespéré. Et quel est votre espoir par rapport à la pollution de la planète?
Eh bien, il y a là deux aspects, deux domaines. Vous parliez de la paix intérieure. Ça, je peux le dire, j'ai atteint un état où plus rien ne me touche dans, à ce niveau-là. Dans ce domaine-là, plus rien ne peut me toucher. Je suis le naufragé qui est arrivé sur son île, et là il est sur la terre ferme, plus rien ne peut l'atteindre. Mais il y a un autre aspect, je l'appellerais biologique, ou je ne sais pas comment. Je suis un être vivant comme tous les autres. Et là, dans ce domaine de la vie, je suis plus vulnérable que les autres, parce que plus sensible, parce que justement je souffre plus que les autres de cette agression contre la vie qui est faite actuellement par toute la civilisation. Dans le monde entier, j'ai un peu voyagé, je suis passé partout, mais c'est partout comme ça, c'est partout. Il y a encore peut-être quelques petits coins dans le monde épargnés, mais ils ne sont pas nombreux. Et donc je concilie très, très bien ma paix intérieure avec, comme vous dites, ma souffrance extérieure. Je ne souffre pas, je ne pleure pas, je ne crie pas. Quoique, intérieurement, je pourrais qualifier justement de cri et de déchirement ce qui m'arrive lorsque je vois ce qui se passe. Mais je ne me lamente pas, j'agis. J'utilise une arme dérisoire qui est la bouteille à la mer. J'écris des livres. Je les lance comme un naufragé lance des bouteilles à la mer pour appeler au secours. Je sais que ça n'aboutira pas, je sais. Je suis parfaitement conscient que ça ne sert à rien. Je le fais quand même.
Mais quel est votre espoir? C'était déjà la réponse que vous venez de me dire. Vous n'avez pas d'espoir que ça soit vraiment entendu. Vous agissez par conscience, par ressenti et par devoir, mais il n'y a pas vraiment d'espoir derrière ça.
Non. De l'espoir, il n'y en a pas. Seulement, s'il fallait vraiment avoir l'espoir pour agir, je pense que l'humanité n'aurait pas fait beaucoup de pas, n'aurait pas avancé, ne serait pas allé loin. Remarquez, elle est allée trop loin cette fois-ci. Mais j'agis parce qu'il le faut, j'agis parce que je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas simplement être un professeur de Tai Chi Chuan ou un guide ou quelque chose comme ça. Non, je ne peux pas. Je me sens concerné par tout ce qui arrive à notre planète, par tout ce qui arrive au genre humain. Je me sens concerné personnellement, directement. Et j'agis pour moi, j'agis pour ma femme, pour mes enfants et pour les autres. J'agis parce qu'il faut le faire.
Donc s'il n'y a pas la confiance, il y a quand même l'amour.
Ah ça oui, ça oui, ça oui. Un amour inépuisable, inépuisable.
De circonstances, une musique de Dean Evanson, Native Tongue. De circonstances, puisque vous vous rappelez ses derniers propos, je suis comme un naufragé qui a trouvé son île et il lance des bouteilles à la mer. Alors ces bouteilles, ce sont des livres. J'en ai quelques-uns ici avec moi, je vous en donne la nomenclature. J'ai déjà parlé de médecin devenu guérisseur. Je tourne les pages du second, c'est la voix du Tai Chi Chuan et ça s'appelle G-I-Q-U-A-N quand j'étais Chi Chuan. Et l'autre, le Chi, Voix de la vie. Il y en a plusieurs, il y en a quelques-uns publiés par Stefanovic. Je soupçonne à compte d'auteur, puisque l'éditeur ou la collection s'appelle justement Bouteille à la mer. Donc voilà, vaut mieux se publier lorsqu'on est un naufragé sur une île déserte. Et j'étais très heureux, lors de cette entrevue, de l'entendre parler d'amour, puisqu'au premier niveau, lorsqu'on entend quelqu'un qui, avec sa prestance, et nous dit « voilà, je souffre plus que les autres et je suis désespéré du genre humain », ça peut être entendu à plusieurs niveaux d'entendement. Et quand il y a cet esprit, cette chaleur qui est passée dans ses derniers propos, eh bien, ça rassure. Alors, je lui ai demandé si, quelque part, il n'y avait pas un espoir quand même, un espoir biologique, que la vie qui est dans les êtres humains, même s'ils polluent, même s'ils sont un peu perdus des fois, si cette vie-là n'est pas une source d'espoir, si l'espoir en fait n'est pas biologique.
Mais c'est le seul espoir, c'est le seul espoir. Aujourd'hui, on cherche des solutions scientifiques. On a cherché des solutions sociologiques, on a cherché toutes sortes de solutions religieuses, philosophiques, etc. Aujourd'hui, c'est des solutions scientifiques qu'on cherche. Personne encore ne cherche la solution là où elle se trouve, dans la vie même. Nous sommes des êtres vivants. L'homme n'a pas inventé la vie, c'est la vie qui a fait l'homme. L'homme voudrait ignorer la vie, voudrait faire des choses sans tenir compte des nécessités, des impératifs biologiques. On falsifie la vie partout. Prenez tout simplement un pain dans un grand magasin. Regardez ce qui est marqué dessus. Il y a toute une liste de produits artificiels qui sont intégrés dans le pain. Le pain.
En bas de ligne, on peut voir, peut contenir du blé aussi.
Oui, je crois. Je crois que c'est comme ça. Donc, ces solutions que nous cherchons, la nature nous les a données depuis toujours. Nous les avons nous-mêmes. Nous sommes des sources d'énergie. Nous sommes des sources de renouvellement de la vie. Tout ça, on n'a pas besoin de l'inventer. Tout ça est déjà. La seule chose que nous devons faire, c'est cesser d'aller contre la vie. Cesser d'agir contre la vie. Mais au contraire, de se laisser prendre, de se laisser couler par se laisser emporter par ce courant de vie. Et là, tout devient simple, tout devient très simple. Vivre, tout simplement.
Vous avez dit tout à l'heure, bon, je ne cherche plus. Vous continuez dans cette voie. Est-ce que le mot évolution a encore un sens pour vous? Ou si oui, quelle sorte de parcours vous reste-t-il à parcourir avant l'échéance, selon vous?
Non, le mot évolution ne signifie plus rien pour moi, mais je pense qu'il ne signifie rien pour personne. Le mot évolution est une grande illusion. On s'imagine évoluer. Nous avons déjà tout. Un être vivant, un être formé, adulte, a tout ce dont il a besoin. Il n'a pas à évoluer. Il a simplement à prendre conscience de ce qu'il est déjà. Un être vivant. Un être vivant, en bonne santé, heureux de vivre. Tout ça, ce sont des choses fondamentales et élémentaires dont on n'a aucune conscience lorsqu'on est pris par la course aux gains, aux revendications, etc. L'évolution, oui, dans ce sens qu'on se débarrasse progressivement de ce qui est superflu dans sa vie. Ça, c'est peut-être une évolution. Mais en fait, on n'évolue pas. On est déjà. C'est seulement une prise de conscience. Mais lorsque je parlais de ma recherche, c'était en fait la recherche d'un moyen d'intéresser les autres, de transmettre aux autres ce qui pour moi est une évidence, ce qui pour moi est un acquis définitif. Ça, c'était ma recherche et j'ai exploré différentes voies, différentes possibilités. Lorsque j'ai trouvé le Tai Chi Chuan, j'ai dit oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire et c'est ça que je fais. Et je pense que j'ai eu raison parce que je vois les résultats, je vois ce qui se passe autour de moi. Les gens arrivent de plus en plus nombreux, les gens connaissent un endroit. J'ai exploré différentes voit différentes possibilités. Lorsque j'ai trouvé le Tai Chi Chuan, j'ai dit oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire et c'est ça que je fais. Et je pense que j'ai eu raison parce que je vois les résultats, je vois ce qui se passe autour de moi. Les gens arrivent de plus en plus nombreux, les gens connaissent un enthousiasme de plus en plus évident à faire justement cette recherche-là, la recherche de Tai Chi, la recherche de la voie de la vie.
La vie a un autre versant, comme le yin et le yang, qui est celui de la mort. Quelle est votre attitude par rapport à la mort?
Je n'ai pas d'attitude envers la mort. Il n'y a pas de mort. La mort, ça n'existe pas. Il y a la vie. La vie est le seul fait, c'est la vie. On parle de mort parce que la vie s'achève à un moment. Comme on parle de conception, de naissance, parce que la vie commence. Mais le seul fait véritable, c'est la vie. On a parlé beaucoup de vie antérieure et de vie après la vie, et ce que je sais moi, de vie après la mort, tout ça, ce sont des choses qui n'ont aucun sens. Il y a un fait, c'est la vie telle que nous la vivons, telle que nous pourrions la vivre. Et je suis toujours fasciné par la vie, même lorsque je sais que le jour de ma mort approche à grande enjambée maintenant, je suis toujours fasciné par la vie. Non pas par ces quelques instants, peut-être, de souffrance, ou peut-être même de joie, de mourir. Je souhaite mourir avec le sourire, avec un sourire émerveillé, mais émerveillé en regardant ce que je quitte, en regardant la vie telle qu'elle a été pour moi, telle qu'elle est pour tout le monde, avec cette seule différence peut-être que j'en ai la conscience plus aiguë que les autres.
Pas d'angoisse de la continuité, puisque même s'il n'y a que la vie, la forme qu'a pris la vie il y a quelques années, la forme de Vladik Stefanovitch, va se transformer, disparaître à tout le moins, cette forme-là.
Il ne faut pas confondre la vie avec l'individu. L'individu que je suis va disparaître à tout jamais. Mais la vie continue. La vie, ce phénomène qui est un grand élan, qui est un grand élan unique dans le cosmos, continuera après ma disparition, après la disparition de l'individu que je suis. Mais je suis individu seulement, en quelque sorte, par convention. Parce que j'ai été éduqué, parce que nous sommes tous éduqués à nous sentir individus. Et surtout parce que notre éducation religieuse, car il y a encore toujours des éducations religieuses, font de nous des individus uniques et irremplaçables. Nous ne sommes ni uniques ni irremplaçables. Nous ne sommes pas des individus. Nous sommes tout simplement un lieu de localisation d'un peu de vie qui existe en dehors de nous et qui existera après nous. C'est comme si une goutte d'eau voulait avoir une autre signification que l'océan auquel elle appartient. Un jour, cette goutte d'eau retombe dans l'océan. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle a toujours été l'océan? C'est ça, la vie. La vie est quelque chose d'immense. Et la petite goutte de vie que je suis, en tant que goutte, n'a aucune signification. Mais en tant qu'océan, elle a toute la signification. Elle a toute l'importance, la plus grande qui soit. C'est la vie.
Merci pour avoir fait perler quelques gouttes quand même de sagesse à Émergence. Merci beaucoup, Vladi Stefanovitch.
Merci.
Ces derniers propos, on peut les mettre en résonance avec Jeanne Guéné qui disait justement il n'y a que la vie. Il n'y a pas de mort, il y a la vie qui prend différentes formes, qui s'incarne, ce sont les occasions de la vie. Et tiens, faisons donc une rencontre entre ces deux avant de se quitter. Jeanne Guéné qui, à la fin de son livre, Le Septième Sens, qui n'est pas encore paru, mais dont j'ai une petite copie ici, l'éditeur, disait simplement ceci. Il n'y a plus de mort, il n'y a que l'inlassable activité de la vie. Le voile s'est déchiré. Je vois plutôt, c'est elle, c'est la vie, qui voit à travers mes yeux, qui deviennent ses yeux, qui parle à travers ma voix, qui est sa voix, qui œuvre à travers mes mains, qui sont ses mains. Tout est elle, la vibration primordiale, la pulsation cosmique qui crée l'univers et nous-mêmes. Partout, en tout, c'est elle qui nous conduit de l'inconnaissance à la connaissance, de l'inconscience à la conscience, des ténèbres de la mort à la lumière de la vie.